Vous écoutez
RMC. RMC Intégral Sport.
Arnaud Valadon.
h 04 sur RMC, l'Intégral Sport de retour. On parle de l'Olympique de Marseille dans un instant. Dernier match de préparation. Et quel match? Ça rappelle évidemment de grands souvenirs sur la Canebière. Marseille AC Milan à 18h au Vélodrome. Plus de 60 000 personnes attendues. Présentation de cette affiche dans un instant. La Ligue 1 reprend que vendredi, mais la Ligue 2 est déjà sur le pont. Première journée hier avec Guingamp et Metz qui ont déjà marqué les esprits. Et le capitaine messin Mathieu Hudon sera avec nous après la victoire éclatante hier des Grenats face à Amiens 3-0. On n'oublie pas le vélo avec la dernière étape du Tour de France Femmes. Et puis l'événement à 15h, le départ du Grand Prix de Formule 1 de Hongrie avec George Russell en pole position avec sa Mercedes. Esteban Ocon, premier français, partira 5e avec son Alpine. Présentation des enjeux avec Jean-Luc Roy et Denis Chevrier. Le dernier match de préparation de l'Olympique de Marseille, c'est à 18h ce soir face à l'AC Milan. Une rencontre que vous pourrez suivre sur RMC Story, la chaîne numéro 23 sur la TNT, ainsi que sur RMC Sport. Vous pourrez voir le match, mais aussi sur BFM Marseille Provence, BFM Toulon Var, avec au commentaire Hamza Rahmani. Bonjour Hamza.
Bonjour Arnaud, bonjour à toutes et à tous.
Un match de gala, mais qui sonne aussi comme une répétition générale pour l'OM, qui démarrera sa saison dimanche prochain à domicile contre le Stade de Reims.
Effectivement, dernier test pour l'Olympique de Marseille avant le début de saison. Un OM pas forcément rassurant en termes de résultats depuis le début des matchs de préparation. On en rappelle une victoire face à Marignane Gignac, club de 4e division. Deux défaites contre Norwich et Middlesbrough avant le match nul le mercredi dernier contre le Betis, club espagnol qualifié en Ligue des Champions. Mais il faut clairement se détacher des résultats bruts pour analyser les matchs de préparation de l'OM. Encore si on peut analyser des matchs de préparation, ce qui peut quand même sembler parfois assez absurde. Mais on sent petit à petit la patte Tudor sur quelques séquences de jeu avec ballon, sur un bloc aussi très très bas en phase défensive, ce qui contraste totalement avec ce que proposait Jorge Sampaoli notamment la saison dernière. Donc dernier match, on le disait, de préparation, un match de prestige en plus face à l'AC Milan. On va pas rappeler l'historique avec cette victoire en 1993, pardon, en finale de Ligue des Champions. Le but de Basil Boli, c'est lui d'ailleurs qui donnera tout à l'heure le coup d'envoi fictif de la rencontre. Il y aura quasiment 62 000 personnes tout à l'heure au stade Vélodrome. Un retour vers le passé pour certains, un avant-goût des soirées européennes que vivra le Vélodrome pour d'autres, mais avant tout, effectivement, un dernier test pour Igor Tudor avant le championnat.
Et les nouvelles recrues, on pense notamment à Klos, Mbemba, Gigo et Luis Suarez.
Ouais, on devrait les voir avec plus ou moins de temps de jeu. Un joueur comme Chancel Mbemba qui va certainement enchaîner peut-être même 90 minutes. Et puis, il y a d'autres nouvelles recrues. Luis Suarez, est-ce qu'il débutera? C'est une des interrogations. On peut penser aussi à la toute nouvelle recrue, Nuno Tavares, le latéral gauche en provenance d'Arsenal, prêté par Arsenal, 4e joueur d'Arsenal arrivé à l'Olympique de Marseille sur cette dernière saison, après Saliba, après Guendouzi, après Kolasinac en hiver dernier, et donc désormais le latéral gauche Nuno Tavares, à un poste qui semblait quand même assez prioritaire au vu des... On va pas être trop méchant, mais disons que Jordan Amavi et Kolasinac ne donnaient pas entièrement satisfaction ni au président entraîneur Jorge Sampaoli, et encore moins manifestement
qui jouait par à gauche la saison dernière,
effectivement par Paul Gerson même, effectivement avec Sampaoli. Donc la priorité semblait quand même renforcer ce couloir gauche. Ça a été le cas avec Nuno Tavares. On verra s'il débutera la rencontre, mais lui aussi a une belle carte à jouer en ce début de saison.
Alors même Paul Lirola qui désertait son côté droit pour aller jouer à gauche l'année dernière, on l'a vu plein de fois avec Jorge Sampaoli. Tu commençais à nous en parler, alors à quoi ressemble cette équipe de Tudor? Je vous ai déjà dit que le style tranchait avec ce que proposait Sampaoli, mais voilà, comment est-ce qu'on arrive déjà à voir un petit peu une patte sur le dispositif, sur le schéma, peut-être pas encore sur la sélection des hommes, parce que voilà, ça bouge encore au niveau mercato à Marseille.
Oui, et puis on rappelle que qualifié en Ligue des Champions, avec ce calendrier compliqué, avec la Coupe du Monde au mois de novembre-décembre, l'OM enchaînera, comme beaucoup de clubs, tous les 3 jours, donc il y aura quand même pas mal de turnover tout au long de la saison. Mais une chose semble aujourd'hui certaine, c'est que l'OM évoluera avec ses 3 défenseurs centraux, ses 2 pistons sur les côtés. Il y avait une incertitude sur le profil des pistons. Un joueur comme Cengiz Ünder, que fera Igor Tudor de l'international turc, qui n'a peut-être pas de place dans ce schéma. Le si on doit donner des chiffres, un 3-4-2-1, un joueur comme Cengiz Under n'a pas sa place naturellement dans un tel dispositif. Il a été essayé sur le côté en tant que piston, ça semble pas sa position naturelle puisque forcément il va falloir beaucoup plus défendre pour l'international turc. Donc voilà, il y a quelques interrogations encore au niveau de l'alignement de certains joueurs, mais effectivement on commence petit à petit à se rapprocher d'un 11 type avec notamment peut-être Jonathan Clauss sur le côté droit, Jigo Mbemba dans l'axe, avoir aussi la nouvelle recrue, l'une des belles trouvailles de l'Olympique de Marseille, Isaac Touré en défense centrale. Est-ce qu'il débutera la saison en tant que titulaire? D'autant plus, comme tu le disais Arnaud, qu'une place est libérée avec le départ de Luan Pérez à Fenerbahçe.
Et un élément important, on verra pas Paul Lopez dans les buts. Hein.
Tout à fait, il s'est blessé, il devrait manquer le début de championnat. Et c'est son remplaçant Ruben Blanco qui est arrivé en prêt en provenance du Celta il y a quelques jours. Il a joué le dernier match face au Betis. C'était pas forcément attendu et c'est lui qui devrait débuter la saison dans le but de l'Olympique de Marseille.
Surtout qu'évidemment, vous le savez, Steve Mandanda a été libéré, il est à Rennes aujourd'hui, donc on va découvrir ce Ruben Blanco parce que oui, c'est peut-être un petit peu la tuile. Paul Lopez absent pour ce dernier match de préparation et donc le gardien numéro 2 qui sera évidemment une petite attraction.
Qui était déjà le numéro 2 la saison dernière au Celta, ce n'était pas le titulaire au niveau du Celta Vigo, donc voilà, à voir si il aura la possibilité de performer aussi dans le but de l'Olympique de Marseille. Petite histoire d'ailleurs, Ruben Blanco et Paulo Lopez se connaissent très bien puisqu'ils ont tous les deux été en sélection espoir avec l'Espagne lors du championnat d'Europe 2017 et les deux étaient remplaçants à l'époque.
Et on parle d'une petite douleur au psoas pour Paulo Lopez, alors ça peut être vite embêtant, on peut y en avoir pour un mois, donc à suivre, même si on se voulait rassurant du côté du staff de l'Olympique de Marseille. Nicolas nous appelle au 32-16, supporter marseillais. Salut Nicolas.
Bonjour. Salut Nicolas.
Alors, ce match contre l'AC Milan, au-delà évidemment de penser à l'histoire et 93, tu attends des garanties, tu attends une grosse performance de l'OM où il y a quand même beaucoup de changements hein, quand on compare éventuellement le 11 le plus utilisé l'année dernière par Roré Sampaoli et là, ce qui se dégage dans la compo, beaucoup de renouvellement, qu'est-ce que tu attends?
J'attends que ça va être un match de gala, donc j'attends une progression dans le jeu, une progression sur le plan athlétique aussi. Donc j'attends vraiment de voir enfin une amélioration au niveau de l'idée de jeu de Igor Tudor. Ça fait 3 semaines maintenant qu'il est là. Il a eu le temps de poser un petit peu sa patte. Donc voilà, l'équipe elle commence à se dessiner. Il y a 7 recrues. L'équipe type, on la connaît un petit peu, on n'a pas trop besoin d'attendre ce soir pour la connaître. Donc il reste quand même des joueurs de l'année dernière, même si il a fallu faire une mise à jour complète, ou même une réinitialiser les cerveaux, on va dire, parce que c'est complètement nouveau ce qu'on fait. Mais bon, on a quand même des joueurs de qualité, donc on devrait être capable de rivaliser au moins un match avec le Milan AC, même si c'est certainement meilleur que nous. Ils ont une vingtaine de joueurs qui pourraient être titulaires chez nous, il faut être honnête, mais voilà, ce soir, moi, ce que j'attends, c'est qu'on ne soit pas ridicule, qu'on passe un bon petit match avec le public qui revient, 60 000 personnes dans le stade. Je pense que c'est du jamais vu dans les matchs amicaux sur des équipes françaises. Donc voilà, c'est très bien. Il y a dans une semaine le championnat.
Le record ne sera pas battu, Nicolas, puisque l'OM détient ce record. Je ne sais pas si tu te souviens de ce Marseille-Juve il y a quelques années avec Marcelo Bielsa, été 2016. Victoire 2-0 de l'Olympique de Marseille. La Juve qui venait de quelques semaines auparavant de perdre à cette finale de Ligue des Champions. Mais effectivement, on peut souligner l'engouement autour de ce match de préparation. Ça devient une routine hein, côté marseillais. On a eu ce match face à Villarreal la saison dernière, finaliste, non, vainqueur même de l'Europa League. Il y a 3 ans, c'était un match et une défaite face à Naples. Et donc ce match face à la Juve en 2016, donc voilà, ça commence à devenir de plus en plus récurrent.
Et de jouer contre des clubs de Serie A qui débuteront une semaine plus tard que la Ligue 1. Oui, vas-y Nicolas.
Non, je disais surtout qu'on n'est pas de blessés pour le début de championnat dans les titulaires et après voilà, on attend aussi de voir un petit peu où est-ce que vont jouer des joueurs comme Under, parce que bon, c'est des joueurs sur lesquels on doit compter et jouer à ce poste de piston, c'est pour le moment c'est pas trop ça, donc on espère que la mayonnaise va prendre. Et bon, après il y a énormément de matchs dans la saison, il y aura une cinquantaine de matchs, donc ils auront le temps tous de se montrer quoi, donc voilà.
Merci. Merci beaucoup, Nicolas, d'avoir composé le 32-16. Belle saison et bon match pour l'Olympique de Marseille tout à l'heure face à Milan. Alors, c'est vrai que Igor Tudor, c'est aussi la grosse nouveauté. On s'attendait pas à le voir débarquer, Hamza, sur le banc de l'Olympique de Marseille après le départ de Jorge Sampaoli. Et c'est vrai que plusieurs faits remontent un petit peu aux oreilles de tout le monde. On a parlé d'une première altercation avec Gerson. Et là, on a parlé d'une situation tendue avec Amavi. Alors, on peut dire que c'est différent. Gerson est attendu comme un joueur un petit peu cadre et titulaire de cette équipe, tandis qu'Amavi est un peu plus sur le départ.
D'ailleurs, Jordan Amavi est écarté du groupe, n'est pas convoqué pour ce match face à l'AC Milan et devrait effectivement quitter le club. Alors concernant les altercations, ça fait aussi partie de la vie d'un groupe, mais il est quand même intéressant de noter que l'Olympique de Marseille, en tout cas que les joueurs, ont forcément, on l'imagine, un peu de mal à s'adapter aux nouvelles méthodes d'Igor Tudor. Ça fait un an et demi qu'il travaillait avec Jorge Sampaoli, avec les résultats que l'on connaît. Certains seront plus déçus que d'autres. Mais effectivement, passer d'un Sampaoli qui devait débuter la saison à un nouvel entraîneur, Igor Tudor, qui semble avoir des méthodes de travail complètement différentes et un style aussi complètement différent, ça nécessite forcément de l'adaptation, du temps d'adaptation pour les joueurs, peut-être aussi pour le staff technique. À un moment, il va peut-être aussi falloir lâcher du lest d'un côté et de l'autre pour essayer de trouver un bon équilibre. Mais effectivement, le côté adaptabilité de part et d'autre semble quand même assez important et à souligner en ce début de saison.
Autre supporter marseillais au 32-16, Loïc. Salut Loïc. On va avoir Loïc dans un instant. Ouais, ça y est, on t'entend, Loïc. Combien de temps faut-il laisser Igor Tudor? Parce qu'évidemment, on ne va pas le juger sur l'issue du match ce soir, ni non plus sur la première journée de championnat.
Non, bien sûr, il faudra un temps d'adaptation au moins aussi long qu'il faudra aux joueurs. Comme disait tout à l'heure, c'est compliqué parce que tu passes d'un jeu de possession de balle avec mouvement et des postes un peu, enfin, totalement hybrides où les mecs sont obligés de s'adapter à l'adversaire sans forcément toujours imposer sa patte, à une équipe plus défensive et beaucoup plus verticale avec des joueurs qu'il n'a pas choisi, des matchs amicaux qu'il n'a pas choisi, et à l'entendre presque, il a été obligé de venir Tudor entraîner l'OM. Alors, il aura un temps de clémence de la part de tous les supporters et certainement de la direction, mais à un moment donné, il va falloir aussi des résultats. Donc là, les premiers matchs amicaux et les peut-être deux, trois premiers matchs de championnat, il aura une partie de bonne étoile, on lui souhaite, et de clémence. Mais après, il va falloir que ça joue, quoi. Parce que là, pour le moment, de ce qu'on a vu, même si physiquement ils sont tous dans le dur, on ne montre pas grand-chose, quoi.
Le calendrier de l'Olympique de Marseille pour débuter la saison de Ligue 1. Réception de Reims, ce sera la dernière rencontre de la première journée, dimanche 20h45 le 7 août. Ensuite, encore dimanche 20h45 pour l'Olympique de Marseille avec un déplacement à Brest. Puis ensuite, réception de Nantes. Fin août, match à Nice. Match toujours évidemment brûlant et en plus quand on se souvient ce qui s'est passé l'année dernière, et ensuite réception de Clermont. Donc voilà, il y a des équipes on va dire plutôt deuxième partie de tableau, et puis aussi des belles affiches pour l'OM. Loïc, t'attends vraiment quoi, la rédemption de Milik cette année? Est-ce qu'il y a un joueur que t'attends vraiment à un autre niveau? C'est vrai qu'il y a beaucoup de lumière sur Milik, d'autant plus que si on indique la voie de sortie à Bamba Dieng, le Polonais Arkadiusz Milik est plus que jamais sous les feux des projecteurs.
Bien sûr qu'on attend plus de Milik, mais encore faut-il pouvoir l'utiliser dans un schéma qui va le pouvoir. Là, on voit bien que si on prend beaucoup de verticalité, de profondeur, c'est pas Milik qui va aller chercher les ballons dans la profondeur, mais plutôt Bamba Dieng. Et un jeune joueur de ce profil-là, à 15 millions d'euros, ils vont trouver vite à le vendre. Mais est-ce que
c'est presque un cadeau,
15
ouais.
millions à le remplacer, quoi. Moi, je trouve que c'est, il faut pas être pressé. Et puis Payet, est-ce que Payet va avoir autant de rayonnement quand il va falloir jouer très très vite de l'avant?
Et ça, c'est une bonne question, effectivement, parce que avec les libertés qu'il avait aussi avec Jorge Sampaoli, on le voyait vraiment aller un peu sur le côté gauche, prendre son temps, se placer entre les lignes. On va dire vraiment, pas qu'il faisait ce qu'il voulait, Dimitri Payet, mais il y avait de la liberté pour son expression créative.
Un vrai numéro 10 qui fait jouer son équipe. Là, quand tu vas très vite de l'avant, il faut que tu sois très vite dans la zone de vérité. Donc, il va falloir qu'il soit au cœur du jeu et prendre le ballon, se retourner. Et sur 2-3 touches de balle, il va falloir qu'il mette des passes dans l'espace. Après, les pistons droit et gauche, eux vont beaucoup cavaler. Est-ce que Under, De La Fuente et compagnie vont avoir un rôle il va falloir qu'ils aient un rôle beaucoup plus défensif cette année si on joue en 3-5-2, quoi.
Mais après, on connaît Jonathan Clauss, au moins on sait ce qu'il peut faire, ce qu'il peut avaler comme kilomètre. Donc on va dire côté droit, on est au moins un peu rassuré, hein, Loïc.
Ouais, mais tu sais que tu vas jouer la Coupe de France.
Ah oui, il faut jouer 60 matchs aussi, oui, on est d'accord.
La Champions League, on a voulu la jouer la Champions League, donc on ne va pas s'en plaindre, c'est pas ce que je suis en train de dire. Mais je trouve que ça fait une fois de plus à l'OM, quand tu arrives à faire une belle saison, assez aboutie quand même, parce que si on prend un rebours de 1 an, on se dit...
Ben, deuxième, on signe tout de suite, évidemment.
Bien sûr. Et là, quand même, il faut se dire qu'à 10 jours de la reprise de compète, on est un peu dans le flou artistique, quoi.
Et on se souvient qu'effectivement, les saisons où il y a eu de la Ligue des Champions après une deuxième place, bah, que ce soit avec Villas-Boas, ou même, je me souviens, il y a quelques années, aussi avec Eric Bob, je crois, c'était dur. Ouais, et Deschamps aussi. Merci beaucoup, Loïc. Supporter de l'OM, très bonne journée et au plaisir sur RMC. Hamza, quand même, un mot de l'AC Milan, le champion d'Italie en titre.
11 ans après.
Et oui, on est content de revoir l'AC Milan avec les Kaká, tout ça à l'époque, Gennaro Gattuso. Alors évidemment, ils sont plus sur le terrain. Est-ce qu'il y a eu des renforts? Ça semble plutôt calme quand même, hein, du côté du recrutement des Rossoneri.
Ouais, il y a eu deux départs assez importants, notamment celui de Franck Kessié au Barça, le départ d'Alessio Romagnoli du côté de la Lazio. Deux recrues, un que l'on connaît très très bien en Ligue 1, deux même que l'on connaît très bien, un qui évoluait en Ligue 1 la saison dernière, Yacine Adli en provenance de Bordeaux, l'autre c'est Divock Origi en provenance de Liverpool. Il y a eu une sorte de feuilleton, de saga autour d'un joueur belge, Charles De Cotaleire, qui est un meneur de jeu du club Bruges. Il devrait signer lundi, passer sa visite médicale lundi, un transfert à 32 millions d'euros. Mais effectivement, le mercato du côté de l'AC Milan semble pour l'instant assez calme.
Et il y a toujours l'insubmersible Olivier Giroud devant.
Bien sûr, il devrait certainement débuter, on l'imagine, ce soir du côté du Stade Vélodrome. Quelques joueurs aussi, on pense à Mike Maignan, l'ancien Lillois. Et puis Théo Hernandez, né à Marseille, qui a grandi à Marseille jusqu'à l'âge de 3 ans avant de partir en Espagne.
Merci Hamza, tu seras au commentaire de cette rencontre sur BFM Marseille-Provence, BFM Toulon-Var. C'est gratuit, c'est la TNT à Marseille et à Toulon, mais également partout en France, RMC Story, la chaîne numéro 23 de la TNT, ou également RMC Sport. Voilà, vous n'avez pas le droit de manquer ce match, en tout cas, sinon vous pouvez écouter RMC, vous serez averti évidemment de l'évolution du score. Merci Hamza. Nous on revient dans un instant, l'intégral sport. On aura Mathieu Hudol, le défenseur et capitaine du FC Metz comme invité. Metz qui s'est imposé hier pour la première journée de Ligue 2, 3-0 face à Amiens.
RMC Intégral Sport,
Arnaud Valadon.
14h25, on est ensemble en ce dimanche 31 juillet, week-end de chasse et croisée. C'est pour ça que vous avez toutes les demi-heures l'information trafic. Dans un instant, un invité, le joueur du Football Club de Metz, le défenseur latéral gauche, et non pas défenseur central, Mathieu Hudol. C'est le capitaine Metz qui s'est imposé 3-0 hier face à Amiens, première journée de Ligue 2. Mais Metz n'est que deuxième à la différence de but, puisque le leader, c'est l'en avant Guingamp, victorieux de Pau 4-0. Mathieu Hudol qui sera dans quelques instants notre invité. On parlera Formule 1 puisque dans 35 minutes ce sera le départ du Grand Prix de Hongrie avec George Russell en pole position sur sa Mercedes. C'est la première fois de la saison qu'une voiture autre qu'une Red Bull ou Ferrari décroche une pole position et peut-être aussi une victoire autre qu'une Red Bull et Ferrari. Ce sera une première cette saison parce que les deux écuries se sont adjugées 100% des course et George Russell qui part donc en pole position. Pourquoi pas rebattre des cartes dans cette saison du Grand Prix de Formule 1. Jean-Luc Roy sera avec nous ainsi que Denis Chevrier, ingénieur historique de Renault, pour nous présenter tous les enjeux de cette course à suivre évidemment en direct sur RMC. Et puis on parlera du Tour de France femme, un point sur la course qui est partie déjà depuis une petite demi-heure. Mais à 14h26 sur RMC, c'est du défi hippique. Il arrive au galop ou au trot, je sais pas, c'est comme il veut. C'est Dimitri Blanc-l'œil. Salut Dimitri.
Salut Arnaud, bonjour à tous. Alors c'est au galop aujourd'hui Arnaud avec le défi hippique. D'ailleurs, on a pas le jingle du défi hippique.
Eh ben on arrive, ça part. Allez.
RMC.
Défi hippique.
Ah oui, j'attendais ça pour être lancé, moi, tout simplement.
C'est normal, le top départ, hein, on veut pas de faux départ. Hein.
Exactement, il n'y a pas de faux départ. Le défi hippique, c'est quoi? Bah écoutez, il y a un auditeur qui nous donne un cheval dans le quintet du jour. Je donne un cheval aussi. S'il termine devant moi, il revient demain et il augmente sa cagnotte à chaque fois. Et aujourd'hui, c'est Christophe qui enchaîne les victoires qui vient me rejoindre au 32-16. Salut Christophe.
Bonjour la team.
Alors Christophe, bon, tu m'as battu les 2-3 derniers jours, hein, il me semble. Donc là, j'ai envie de prendre une revanche, Christophe. Mais je te laisse quand même la main pour choisir ton cheval dans le quintet du jour à Clairefontaine-Deauville.
Alors j'ai choisi le numéro 1 pour Mirabeau. Il vient de se faire une superbe rentrée. Il a été castré cet hiver. Il a déjà prouvé l'année dernière sa valeur en 40,5. Seul bémol, bon, c'est un attentiste, donc il faudrait que ça se passe bien, mais je pense qu'il est au-dessus du lot.
Ok, bah écoute, c'est vrai que c'est un bon cheval, hein. Je l'aime beaucoup. Pour essayer de te contrer, je vais prendre le numéro 9 Paper Trophy dans cette épreuve, troisième dernièrement d'une épreuve similaire. C'est un cheval qui connaît bien les quintés, il est souvent à l'arrivée, il est régulé. Je suis pas sûr qu'il puisse gagner, mais en tout cas, il va jouer les premières places et je pense qu'il peut te donner un peu de fil à retordre. Donc je rappelle la règle, si le numéro 1 Pont Mirabeau dans le quintet du jour 15h15 à Clairefontaine-Deauville termine devant le numéro 9 Paper Trophy, Christophe reviendra une nouvelle fois demain et augmentera sa cagnotte. Bonne chance à toi, Christophe, et nous on se retrouve à 15h15, Arnaud, pour le commentaire de ce quintet.
PMU, que les meilleurs gagnent. Jouer comporte des risques. Appelez le 09 74 75 13 13. Appel non surtaxé.
Merci Dimitri, à tout à l'heure. La Ligue 2 a repris hier, il y a eu la victoire de Dijon face à Saint-Etienne, ça c'était le premier match que vous avez suivi à 15h, victoire de 1, et à 19h dans l'intégral foot avec Benoît Boutron, vous avez pu entendre la victoire du FC Metz face à Amiens, victoire éclatante 3-0, le FC Metz relégué de Ligue 1 à Ligue 2, ils ont terminé 19e les Grenats et ils comptent remonter, et notre invité est le capitaine du FC Metz, Mathieu Eudol. Bonjour Mathieu.
Bonjour.
Hier, première journée de Ligue 2 et le FC Metz s'est imposé à Saint-Symphorien 3-0 face à Amiens. Mathieu, ça faisait longtemps que vous n'aviez pas vécu une aussi belle soirée à Saint-Symphorien.
Ouais, c'est sûr que la saison passée a été assez compliquée sur le point de vue des résultats et surtout à domicile aussi, on a eu beaucoup de mal. Donc, commencer cette nouvelle saison par une victoire en mettant 3 buts et sans en encaisser, c'est une très bonne chose et ça fait du bien.
Elle fut dure à digérer cette saison dernière. Alors vous, à titre personnel, vous aviez manqué suite à une blessure au genou les deux tiers restants de cette saison et de le vivre voilà, un petit peu sur le côté, voir comment ça s'est terminé. Il y a eu un petit peu cet espoir aussi à la fin avec la victoire contre Lyon. Elle fut dure mentalement à digérer cette fin de saison 2021-2022 en Ligue 1.
Ouais, c'est sûr que c'était compliqué parce que à la fois on était loin, c'était un peu inespéré pendant un moment de se maintenir, et puis sur la fin, avec les résultats, on a pu y croire jusqu'à la dernière journée. Finalement, ça n'a pas tourné en notre faveur, mais c'est sûr que c'était pas facile à vivre, et surtout pour mon cas personnel aussi de vivre ça de loin, c'était pas évident, mais bon voilà, on a su se reconcentrer sur cette nouvelle saison avec un nouveau staff qui arrive et aussi un nouveau groupe, donc on est passé à autre chose maintenant.
Est-ce qu'on peut dire que le FC Metz est reparti presque d'une feuille blanche, même s'il y a des joueurs qui étaient là l'année dernière qui sont encore là, mais un nouveau coach, Laszlo Bologny, qui n'était pas sur le banc hier, hein, toujours positif à la Covid, c'était Christophe Delmotte, un nouveau directeur sportif aussi, ça faisait longtemps que Philippe Gaillot était là au FC Metz. Est-ce qu'on peut parler de page blanche ou c'est un petit peu excessif?
C'est un peu excessif, peut-être une page blanche, mais c'est vrai que c'est un nouveau démarrage, on va dire, parce qu'il y a eu pas mal de changements, comme tu l'as dit, à pas mal de niveaux. Il y a aussi un effectif assez rajeuni, il y a eu beaucoup de départs, donc c'est un nouveau départ pour de nouveaux objectifs qui sont notamment la remontée.
Cette saison, 2 montées seulement directes, il faut dire quand même que l'ascenseur, c'est un petit peu une spécialité lorraine, une spécialité grenat, Mathieu, depuis le temps que tu es au club.
Ouais, malheureusement, c'est vrai que ça fait pas mal d'années où on a pu vivre des descentes et des montées, même si on a été sur 3 saisons en Ligue 1, ce qui n'était pas arrivé depuis un certain temps. Donc c'est dommage de devoir rejouer la montée une nouvelle fois, mais on va dire de ce côté-là, on a aussi cette expérience, si je puis dire, de savoir le faire.
C'est des émotions, mine de rien, on parle souvent d'une montée. Bon, évidemment, on souhaite pas des rétrogradations, des relégations derrière, mais beaucoup de joueurs disent quand on remonte, il y a une telle délivrance dans le stade pour tout le monde qui a envie de remonter la Ligue 1 que ce sont souvent les plus grandes émotions que beaucoup de joueurs vivent. Hormis un titre, évidemment.
Oui, non, mais c'est sûr que c'est des émotions particulières parce que pour remonter, forcément, on vit une saison de champion quasiment, donc on gagne beaucoup de matchs. c'est souvent très serré. Là, d'autant plus que dernièrement, maintenant, il n'y a plus que deux montées directes. Donc, ça devient de plus en plus compliqué. Le championnat devient assez serré en Ligue 2. Donc, c'est des fortes émotions. Parfois, même, on en a plus qu'en Ligue 1. Quand on joue le maintien, c'est parfois des saisons difficiles. C'est très différent de jouer la montée en Ligue 2.
Tu as notamment connu en 2016 la fin de saison titulaire avec le FC Metz où vous allez chercher encore une montée. Ça reste des gros souvenirs.
Ouais, surtout que c'était un scénario assez particulier cette fois-là. On monte à la dernière journée contre Lens et ça s'est joué au Golavérage face au Havre. Et c'est des super souvenirs parce que j'ai eu la chance de connaître pour le moment deux montées. Donc c'est sûr que c'est des super moments à vivre.
Et en plus, vous aviez perdu à Lens et le coach à l'époque du FCMS, c'était le coach qui était en face hier avec Amiens, coach Philippe Hinschberger, bien connu évidemment, grand joueur du FCMS. Alors c'est vrai qu'on découvre pas mal de nouveaux noms du côté du FCMS et c'est vrai qu'on est un petit peu attiré par Georges Mikotadze devant. Est-ce que ça peut être la révélation? Jeune joueur, attaquant, né en 2000, passé par l'académie de l'Olympique Lyonnais et ensuite il a fini sa formation au FC Metz. Toi aussi formé au FC Metz, est-ce que tu sens qu'il peut être une révélation de cette saison en Ligue 2 avec Ibrahim Agnan, son compère en attaque qu'on connaît aussi un peu plus?
Ouais, c'est sûr que lui, même parmi d'autres, j'ai envie de dire qu'il peut faire une belle saison et se révéler. Il a fait une très bonne préparation, un très bon premier match là. Donc maintenant, ça va être à lui de continuer à bosser, de confirmer la qualité qu'il a montré jusque là. Après, il a fait une très belle saison quand il a été prêté à Serein. Donc on n'attendait plus qu'il confirme ici et c'est bien parti pour le moment.
Laszlo Bologny est arrivé sur le banc, il a succédé à Fred Antonetti. Est-ce que c'est des méthodes que tu n'avais jamais vues autour de ta carrière? Coach très expérimenté, qui a fait énormément de clubs, qui a joué aussi, qui a entraîné chez le rival, la AS Nancy-Lorraine, mais il y a très longtemps, il y a plus de 20 ans. Est-ce que tu as été surpris par la patte Laszlo Bologny?
Surpris non, après c'est sûr que c'est une découverte à chaque fois qu'il y a un changement de staff. Ça faisait quelques années qu'on était avec monsieur Antonetti, donc là faut se réadapter. Après découvrir non pas forcément, mais c'est sûr que c'est des nouvelles consignes, des choses différentes qu'on nous demande, donc faut rapidement se réadapter pour répondre aux attentes de tout le staff.
Mathieu, c'est vrai que on te connaît évidemment, en tant que capitaine du FCMS, en tant que latéral gauche, mais il y a aussi ces blessures au genou, 4 fois les ligaments croisés. Aujourd'hui, comment tu vis? Tu te dis, je suis plus fort à chaque fois. Si ça arrive, ça arrivera. Comment tu gères ça? Comment tu vis ça?
Ben, c'est sûr que le premier objectif après des blessures, c'est de revenir. Tout simplement. Après, je sais que ça demande toujours un temps pour retrouver forcément le niveau que j'ai pu avoir auparavant. Mais en tout cas, je reviens à chaque fois plus fort mentalement. Ça, c'est une certitude.
Est-ce que ça crée un lien particulier avec les supporters? Alors déjà, bon, joueur formé en club, joueur né en Moselle à Metz, en plus de voir cette histoire, que tu es aussi fidèle au club, tu es toujours là. Est-ce que tu sens que en prépa, notamment lors des matchs où on est peut-être un peu plus proche du public, on sent un lien particulier?
Bah, c'est sûr que je suis entre guillemets l'enfant du club. Je suis d'ici, j'ai tout connu ici, donc forcément il y a une identité qui pour les supporters, je pense, est importante. Après mes blessures, forcément, ça fait partie de mon histoire et ça peut un peu plus interpeller, toucher les gens. Après ça va me rester collé à la peau, on va dire, mais j'ai pas forcément envie d'être attaché que à ça. Au-delà des blessures, je suis un footballeur, donc j'ai plus envie qu'on me rapproche de mes performances plutôt que des blessures. Mais c'est sûr que c'est toujours bien que malgré les blessures, je sois toujours là et toujours revenu. Et c'est important pour mon histoire aussi.
On imagine que tu n'as pas été désigné capitaine à cause de ce qui t'est arrivé, mais plutôt par tes qualités et ta fidélité au club. Là, il y aura une petite pause, entre guillemets. Vous allez jouer que lundi, donc ça va faire presque 9 jours avec contre Caen. On annonce quand parmi les candidats à la montée, le FCMS aussi est placé dans ces équipes, voilà, pour le top 2, c'est déjà un gros choc, où par expérience on sait que la Ligue 2, peut-être les matchs les plus difficiles, c'est quand on joue des équipes peut-être un peu moins armées, comme Pau, comme QRM, parce que c'est des batailles, comme Rodez, parce que c'est des batailles très difficiles.
Bah, c'est vrai que le championnat de Ligue 2 n'est pas évident à jouer. Nous, on sait qu'on va être attendu chaque week-end, donc ce sera jamais facile. Après, c'est vrai que on a pu voir comme Dijon notamment contre Saint-Étienne, qui a des équipes qui vont jouer leur rôle pour cette montée-là. Et quand on fait partie aussi, c'est une équipe solide. Donc ce sera une belle affiche pour nous déjà ce lundi.
Est-ce que vous avez l'impression de vivre un petit peu caché, parce que des trois relégués de Ligue 1, on parle beaucoup de Bordeaux, on parle un peu de Saint-Étienne, mais pas trop du FCMS?
Bah, tant mieux pour nous, j'ai envie de dire. Après, c'est les résultats qui feront parler plus de nous, je l'espère.
Merci beaucoup Mathieu Hudol d'avoir été avec nous dans l'Intégral Sport sur RMC. À très vite.
À très vite, merci.
Donc hier, 3-0 face à Amiens pour la première journée de Ligue 2. Dernier match, ce sera ce lundi. Sochaux face au Paris FC, la revanche du barrage qui avait vu les Sochaliens s'imposer en fin de saison dernière. Un point sur le Tour de France femmes, c'est la 8e et dernière étape. Les coureuses se sont élancées de Lure il y a une dizaine de minutes. Valentin Jamin sur place.
Et pour l'instant, peloton toujours groupé. Il y a eu quelques attaques, mais on n'a pas réussi à sortir. Peloton étiré, ça roule très vite, avec notamment l'équipe FDJ Suez Futuroscope, l'équipe française qui secoue un petit peu tout le monde en tête de peloton. Il y a deux coureuses de cette formation dans le top 10, Cécilie Eutrup-Ludwig, la danoise 5e, et puis une française, Evita Music, qui est 8e et qui arrivera quasiment chez elle ici à la super planche de Belleville. Donc formation française qui a envie de se montrer. On est encore sur le plat, on rappelle, il y a une montée de deuxième catégorie, puis le ballon d'Alsace en première catégorie avant de terminer ici à la super planche des Belleville, avec des terribles pentes à près de 24% d'inclinaison.
À suivre sur RMC tout au long de cet après-midi. On vient dans un instant sur RMC. Le tour de mise en grille est terminé pour Jean-Luc Roy et Denis Chevrier. Ils sont dans les starting blocks, prêts à prendre le départ dans 21 minutes. Ce sera le départ du Grand Prix de Hongrie. 13e manche sur 22 de ce championnat du monde 2022 de Formule 1. Présentation des enjeux. Et on vous dit déjà qu'il y a un certain George Russell qui est en pole position. On vient dans un instant sur RMC.
RMC Intégral Sport.
Arnaud Valadon.
14h41 sur RMC. Dans 19 minutes, il y aura l'extinction des 5 feux rouges pour faire partir les 20 monoplaces. Le Grand Prix de Formule 1 en Hongrie et présentation de cette épreuve. Ils nous ont rejoints en studio. Je sais pas. Alors, ils sont tout guillerets. Jean-Luc Roy, Denis Chevrier, salut messieurs. Est-ce que
salut,
c'est
Arnaud,
parce qu'on va assister
à
une course pleine de suspense parce qu'il y a Georges Russell en pole position, ou est-ce parce que vous serez en vacances 4 semaines puisque la F1 va être sur pause pendant 4 semaines, messieurs?
Nous, on est en vacances toute l'année, Arnaud. Tu sais bien, quand on suit les Grands Prix de Formule 1. Rebonjour à tous. Bonjour, Denis. C'est un plaisir de t'avoir avec nous dans le studio. Écoute, en fait, il y a tellement d'incertitudes. Hein, on l'a déjà abondamment commenté depuis hier. Déjà, la première pole de George Russell, c'est quand même un événement. On savait depuis longtemps qu'il avait le talent pour le faire. Il n'avait pas la machine depuis le début de la saison. Et là, apparemment, quand même, Mercedes a progressé, même si Lewis Hamilton partira plutôt loin sur la grille en comparaison. Raison, il est à 7 dixièmes et il partira 7e justement, donc ça c'est la première incertitude. Derrière, les deux Ferrari et puis les mésaventures, on va dire, des Red Bull, qui vont nous valoir forcément quelques remonteurs. Je pense que Denis peut en rajouter, et notamment entre autres au niveau de la météo, qui est elle-même très incertaine, Denis.
Oui, absolument. Cette météo, ça peut être un des acteurs de cette course. Ici, on sait qu'il peut se passer plusieurs choses. Ou une course qui soit malheureusement un petit peu ennuyeuse parce qu'on ne peut pas dépasser.
C'est vrai.
Ou des incidents, quelque chose d'inattendu qui fait que tout d'un coup, le système s'emballe et on peut de nouveau se repassionner avec beaucoup d'indécision.
Ouais, ce ça. Circuit du Hungaroring, vous avez tous les deux vu la naissance, un premier Grand Prix en 86. On parle de tourniquet hongrois. Denis, ingénieur français, quels sont, pour les monoplaces, un petit peu les pièges, ou en tout cas les enjeux sur ce circuit avec énormément de virages et pas tellement de virages lents aussi. Il y a pas mal de courbes qui s'enchaînent, enfin, tous au surnom de tourniquet.
Oui, alors c'est typiquement un circuit à très fort appui. Donc, ce qui fait qu'on peut voir apparaître des voitures qui soient en forme sur ce circuit-là, parce que c'est des voitures qui vont justement et être capables de produire beaucoup d'appui et avoir une bonne motricité. Donc, c'est un circuit particulièrement atypique. Tourniquet, effectivement, ça tourne beaucoup. Il y a à peu près que 10 secondes de ligne droite sur un circuit où on tourne en une 17, voire une 20 en course. Ça donne une idée. Ça tourne tout le temps. D'ailleurs, les images sont souvent assez jolies. On voit ces voitures qui, on voit vraiment ces changements d'appui, la vivacité de ces voitures. Donc, c'est propice à ce genre de choses. Et, les freins. Très solliciteur pour les freins, ce circuit. Très difficile. Refroidissement. Là, il va pas faire très chaud, donc ça devrait être pas mal. Mais ce refroidissement, il est aussi valable pour les freins que pour la boîte de vitesse, pour toutes ces choses-là. On a environ 80 changements de rapport sur ce circuit-là. On fait 70 tours. Donc, c'est un des circuits où la boîte de vitesse est extrêmement sollicitée. Donc, il faut qu'elle soit bien refroidie. Pourquoi est-ce qu'il faut... Le refroidissement est délicat, indépendamment de la température ambiante qu'il peut y avoir d'importante, c'est que la vitesse moyenne est assez faible. Donc tout ça, ça contribue aussi. Donc voilà un peu ce qu'on peut dire de ce circuit. Et c'est difficile d'y dépasser. Est-ce que les nouvelles aérodynamiques de voitures vont aider ces dépassements? Est-ce que la deuxième zone de ZRS située après le premier virage va se révéler un élément propice au dépassement? C'est ce qu'on va voir tout à l'heure.
Oui, parce que ce circuit, il y a une seule zone de détection de DRS, Jean-Luc. Vous savez, cet aileron qu'on soulève derrière pour aller plus vite, tout simplement. Il y a la ligne droite, évidemment, et juste derrière, après le premier virage, une deuxième courte ligne droite. C'est une inconnue par rapport à ces nouvelles voitures avec une aérodynamisme totalement revue. On dit elle devrait plus se suivre. Esteban Ocon, qu'on a eu sur l'antenne, nous disait qu'on sent effectivement qu'elles arrivent mieux à se suivre. Donc, il y a pas mal de paramètres qui peuvent rendre ce tourniquet hongrois, souvent premier, Lewis Hamilton et Mercedes ces dernières années, nous offrir une course spectaculaire.
Oui. Effectivement, il y a une redistribution des cartes qui est générale. On l'a constaté depuis le début de la saison, avec effectivement, et c'est une très bonne nouvelle naturellement, on ne peut que rendre hommage à cette nouvelle réglementation, puisqu'on le sait, l'appui aérodynamique des voitures est procuré beaucoup maintenant par le dessous. On revient aux vieilles méthodes des années 80. Hein. Rien n'a été inventé. C'est toujours un retour aux sources. C'est comme la mode. De temps en temps, ça revient. Donc, ça permet effectivement aux pilotes d'être plus proches les uns des autres, avec moins de dégradation des pneumatiques. Denis évoquait à juste titre effectivement la température. Là, on devrait pas avoir ce problème. Il y a 19 degrés à peine dans l'air et 27 sur la piste. Donc, ça devrait normalement, si ça se maintient comme cela, pouvoir se régler. Mais tu parlais effectivement des deux zones de DRS qui se suivent. C'est un petit peu bizarre parce que la deuxième est même en courbe. Hein. À l'issue du virage numéro 1, il y a une espèce de cassure à droite et une plongée avant un des freinages auquel Denis faisait référence tout à l'heure, assez appuyé. C'est vrai que je ne sais pas si ça peut produire effectivement, pour des pilotes qui se seraient rapprochés dans la courte ligne droite des stands, qui se seraient rapprochés, permettre de placer l'estocade finale à l'intérieur au freinage du virage numéro 2. On va le vérifier en course.
Ah non, mon Paul, et c'est plutôt une surprise, même si on sait que la Mercedes va mieux, mais il a quand même mis 7 dixièmes à son coéquipier Lewis Hamilton en qualification. C'est George Russell, le Britannique, qui n'en finit plus de confirmer les espoirs que l'on avait vus en lui chez Williams et sa signature aujourd'hui chez Mercedes. Est-ce que ça peut être son jour à George Russell, c'est-à-dire aller chercher une victoire en Formule 1 ?
Comme l'a fait Carlos Sainz il n'y a pas très longtemps en Grande-Bretagne, première pole, première victoire, pourquoi pas ? Bon, à mon humble avis, si ça reste sec et au vu des performances signées vendredi par les Mercedes et même sous la pluie en FP3, non, je ne pense pas qu'il soit en mesure, en rythme de course et avec le plein de carburant, de résister notamment aux deux Ferrari qu'il aura dans son sillage. Maintenant, là aussi, il y a beaucoup d'inconnus dans ce Grand Prix. Donc effectivement, je ne pense pas qu'il tienne longtemps en tête, logiquement. Surtout qu'on va pouvoir avoir deux stratégies différentes chez Ferrari pour justement perturber l'homme de tête, quel qu'il soit. Donc c'est un atout, c'est un avantage. Et moi, je ne vois Russell sur le podium, on peut le jouer, mais en tête, personnellement, ça me paraît difficile.
Denis, est-ce qu'on attend les Ferrari au tournant, à la fois pour la fiabilité de la monoplace, mais aussi les pilotes, parce qu'on a vu Charles Leclerc faire une grosse erreur qui peut en partie coûter un titre de champion du monde des pilotes, hein.
Oui, je crois que ça, tout le monde sait que je passe mon temps à dire que le métier de pilote est difficile. Je crois que Charles Leclerc nous l'avait remontré encore lors de ce dernier événement, et ça veut surtout pas dire qu'il va pas se remontrer brillant aujourd'hui. Donc ça, je crois que, vis-à-vis de ce que dit Jean-Luc, je suis pas sûr que Russell ait pas des chances quand même de gagner. Parce que, typiquement, s'il y a un endroit où faire la pole, un bon départ, peut permettre jusqu'au bout de maintenir la tête, c'est le circuit de Budapest.
Ah bah tu te rappelles de Thierry Boutsen?
Ah, je m'en rappelle.
Un Belge, et oui, 90.
Et
oui,
exactement.
Et je m'en suis régalé. Une victoire belge avec une Williams Renault.
Et je m'en suis régalé derrière les écrans.
Exactement. Après tu étais aux premier, affaires, comme l'on
après
dit.
Après le tout premier tour où il y avait eu un rétrogradage malencontreux. 4-3 au lieu de 4-5. Donc, on était bien content que le moteur ait tenu jusqu'au bout. Et il y avait quand même Ayrton Senna derrière lui. Donc, c'est pour dire que la pole, un bon départ, sans incident, sans chose, ça peut amener ça, quelque chose.
On voit la position, puisque Esteban Ocon, qui a gagné l'année dernière, on le rappelle, après le carton au premier virage de Valtteri Bottas, qui avait enlevé les deux Mercedes, se retrouve deuxième, Lewis Hamilton. Oui, donc au final, cette deuxième position qu'il gagne au bout de même pas 400 mètres, l'a guidé vers la victoire.
Et puis après, Lewis, évidemment, choisit de rester en piste. Il est le seul, d'ailleurs, c'est le seul départ en Grand Prix avec une seule
monoplace. Tout le monde était repassé au stand de changer les pneus, et Lewis Hamilton avait repris le départ tout seul.
Exactement, et donc il s'était arrêté après, ce qui avait évidemment offert. Après, il fallait rester devant. Hein. Et j'abonde dans le sens de ce que disait Denis. Le fait, effectivement, sur un tracé comme celui-là, mais je me permets juste de dire, avec l'ancienne réglementation, là, on a remis un petit peu à plat avec de l'effet de sol. Alors, on ne sait pas ce que ça va donner. Hein. Honnêtement, les pilotes eux-mêmes ne savent pas, ni les écuries, d'ailleurs, c'est ce qui nous met à l'aise. Donc, on ne sait pas dans quelle mesure ça va permettre ou pas de maintenir aussi facilement, ce n'est pas le mot, mais moins difficilement la position de l'idée.
Ce qui va en faveur aussi de Russell, c'est que traditionnellement, les Mercedes se montrent plutôt plus à leur avantage en course,
c'est vrai,
que sur l'exercice de qualif. Ils maintiennent bien leurs pneus, etc. Je pense que Russell, on dit qu'Hamilton est très bon en jeu là. Russell doit bien apprendre du maître. Ça va être intéressant.
Très.
On parle de Esteban Ocon, on va l'entendre puisque c'est lui qui a gagné l'année dernière en Hongrie au volant de l'Alpine. Il était cette semaine dans l'Intégral Sport sur RMC et y a de beaux objectifs pour la deuxième partie de saison, même si on a déjà enclenché la deuxième moitié puisque c'est le 13e Grand Prix sur 22. Esteban Ocon, les Alpines sont passés devant McLaren le week-end dernier au classement des constructeurs, très important pour avoir une redistribution de l'argent, et Esteban Ocon peut-être aller chercher Lando Norris, 7e au classement des pilotes, son rival chez McLaren. On écoute, c'était à notre micro, Esteban Ocon.
C'est clair que c'est un objectif pour nous de le rattraper au championnat pilote. C'est clair que on va se battre tout au long de la saison avec ces McLaren. Ça va être la guerre jusqu'à la fin. Donc oui, c'est un objectif qu'on peut réaliser. C'est faisable. Mais voilà, c'est un gars qui met du gaz, on le connaît très bien. Et puis c'est une équipe qui a énormément progressé aussi au Paul Ricard, on l'a vu. Donc voilà, ça va être une tâche difficile, mais on est prêt à la relever.
Esteban Ocon qui s'élancera en troisième ligne, excellente cinquième position, Alonso juste derrière. Merci Jean-Luc, merci Denis. Dans 9 minutes, ça sera le départ de ce Grand Prix de Hongrie que vous pourrez suivre dans l'Intégral Sport qui se poursuit et qui est présenté par Benoît Boutreau qui prend le relais. Benoît.
Eh oui, salut Arnaud, salut à tous. Ils sont là, les membres de la Dream Team RMC Sport, les membres de la Dream Team Formule 1, Jean-Luc Roy, Denis Chevrier. Et ce Grand Prix de Hongrie qui arrive 13e manche du championnat du monde, on va se régaler. Les deux autres directs, il y aura évidemment l'arrivée du Tour de France femme avec cette dernière étape et l'arrivée au sommet à la super planche des belles filles, et puis la finale WTA de Varsovie avec Caroline Garcia qui va affronter la Roumaine Anna Bogdan. A tout de suite sur RMC pour l'intégration.